La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, bienvenue dans la danse des mots qui a la chance aujourd'hui de ne pas être en France, d'être en Guinée et même à Conakry, une grande ville avec ses havres de paix. Et ici, nous sommes non loin de la mer que vous entendez peut-être clapoter. On est sous les palmiers, il y a un petit peu de vent, il y a une brise délicieuse. Et j'en profite pour interroger celui que j'ai en face de moi qui est toute une mémoire de cette histoire guinéenne. Il s'agit du professeur Djibril Tamsin Niane. Professeur Djibril Tamsin Niane, bonjour.
Bonjour.
Alors, je disais il y a un instant que vous étiez une mémoire du continent, une mémoire de la Guinée. Mémoire peut-être, parce que vous n'êtes plus absolument tout jeune, mais mémoire aussi parce que c'est vous qui avez essayé de capter cette mémoire de la Guinée. Vous avez été pendant longtemps professeur d'histoire. En quelle année avez-vous commencé à enseigner l'histoire ici en Guinée ?
J'ai commencé à enseigner l'histoire en Guinée précisément en 1959.
59, c'est-à-dire à l'aube de l'indépendance, hein?
Exactement, à l'aube de l'indépendance. Et donc, nous avons été les premiers professeurs africains venus en Guinée après le fameux Word du 28 septembre 1958.
Car auparavant, vous étiez professeur d'histoire, mais en France?
Oui, j'ai été professeur d'histoire en France, à Bordeaux, à Dax et à Périgueux. J'ai enseigné 2 ans en France.
Ensuite, donc, vous arrivez en Guinée. La Guinée est indépendante, se sépare de la France avec éclat. Et pour enseigner l'histoire, et en particulier pour enseigner l'histoire de l'Afrique, il faut des documents. J'imagine, Djibril Tamsin Niane, que ces documents, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque.
Non, de documents, il n'y avait pas beaucoup à l'époque. Quand je parle de documents, je parle surtout de documents écrits, il n'y en avait pas beaucoup. Bref, on s'est penché sur l'histoire et on a commencé à écrire l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la Guinée. Si vous voulez, pour introduire, il faut savoir que le problème était général, ce n'était pas particulier à la Guinée. C'était un problème pour les pays africains, singulièrement les pays de l'ex-AOF, l'Afrique occidentale française. Donc on était exactement dans la même situation. Il fallait, au lendemain de l'indépendance, enseigner l'histoire du pays, enseigner l'histoire de la région, bref, évacuer un peu la France de l'histoire et donner sa place à l'Afrique dans l'histoire.
Mais pour donner sa place à l'Afrique dans l'histoire, il fallait que cette histoire se fabrique.
Pas qu'elle se fabrique, mais qu'on travaille, qu'on l'écrive et qu'on arrive véritablement à l'écriture d'une histoire. Je dois raconter ici qu'au lendemain de l'indépendance, les pays africains se trouvant dans la même situation ont demandé à l'UNESCO de se pencher sur la nécessité d'écrire une histoire de l'Afrique parce qu'ils en ont besoin pour l'enseignement dans les écoles. L'UNESCO a posé la question à un groupe de chercheurs pour savoir si on peut écrire l'histoire de l'Afrique. Je faisais partie de ce groupe. Il y avait Joseph Kizerbo, il y avait Cheikh Anta Diop, il y avait également Amadou Ampatiba.
Donc il y avait tous les intellectuels les plus brillants de l'époque, hein, parce que ceux que vous citez, quand même, ça fait une belle brochette entre Ampatiba, Kizerbo et Cheikh Anta Diop.
Voilà, la brochette africaine était là, et donc la question a été posée, peut-on écrire une histoire de l'Afrique? Notre réponse a été oui, on peut écrire l'histoire de l'Afrique à condition de rassembler la documentation qui est éparse en Afrique et hors de l'Afrique, d'une part. Et d'autre part, un point capital, nous avons signalé la nécessité de recueillir la tradition orale. La collecte de la tradition orale est indispensable parce que quand même la documentation orale, c'est la première information sur l'Afrique donnée par les Africains eux-mêmes. Il faut dire déjà que cela se passe en 1966 et depuis l'indépendance, la tradition orale a eu une grande vogue en Afrique. Puisque j'ai publié Sundiata en 1960, et avant de publier cette étude, j'ai fait mes premières recherches sur l'histoire africaine et pour écrire mon diplôme d'études supérieures. Ainsi donc, j'avais choisi comme sujet recherche sur l'Empire du Mali. C'est ce qui m'a amené donc à présenter ce diplôme d'études supérieures à la faculté de Bordeaux. elle a été acceptée avec la mention bien.
Professeur Djibril Tamsendian, il y avait deux directions essentielles. D'un côté, faire une collecte, recueillir cette mémoire orale des légendes et d'une histoire légendaire fort ancienne. Et d'un autre côté,
La manière des Africains de conserver les choses du passé.
Oui. Et d'un autre côté, il fallait aussi se mettre en quête des écrits pour essayer de les collecter, de les rassembler et de voir si on pouvait synthétiser une histoire de l'Afrique de l'Ouest à partir des documents.
Oui, à partir des documents. C'est un travail scientifique qui a été fait par l'UNESCO. L'UNESCO, sollicité par les pays africains, a donc mis en avant le problème. On a commencé la collecte des traditions orales intensément à Ouagadougou, à Niamey, à Dakar, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Dans toute l'Afrique, il y a eu des collectes de traditions orales jusqu'en Afrique du Sud.
Alors, comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour organiser ces collectes? J'imagine qu'il n'y avait pas encore de méthodologie. La méthodologie s'est construite au fur et à mesure que vous avanciez dans le travail. Comment vous y êtes pris, Djibril Tamsendian?
Comme vous dites, pas de méthodologie. On venait de soupçonner que l'histoire africaine gît à travers les traditions orales. La littérature orale africaine est là. Et donc, il a fallu tâtonner. Puis, rapidement, on s'est aperçu que c'est une science en Afrique, que la parole. On a appris que c'est une science en Afrique et que donc il fallait savoir aborder le détenteur de la tradition. Il fallait savoir aborder le vieillard. Donc il y a une technique d'approche que par la force des choses nous avons appris. Et la méthodologie s'en est suivie. Je vous dirais par exemple, pour recueillir la tradition orale auprès d'un vieux, d'abord il faut savoir l'approcher. Il faut savoir aller à lui, lui parler, lui expliquer le problème. Et que petit à petit, il embrasse votre idée. Ça c'est le premier apport. Il y a aussi ce que le vieillard peut raconter comme histoire. C'est pas tout de suite que vous pouvez obtenir de lui un récit, donc il faut un long contact. Puis après, maintenant, il peut s'ouvrir pour un récit.
Donc il fallait d'abord apprivoiser ceux qui étaient les détenteurs de cette connaissance et de cette tradition.
Ouais, ça a été l'objet de l'étude de la méthodologie. Nous avons dégagé une méthodologie d'approche des traditions orales. On sait que pour la tradition orale, s'adresser à un griot, il y a des approches indispensables par lesquelles il faut passer. Pour interviewer un vieillard, il faut une approche également avec ses raisons. Et donc, c'est la méthodologie que nous avons d'abord maîtrisée.
Donc, il faut une approche à la fois respectueuse et patiente. Il ne faut pas être pressé, j'imagine.
Justement, il ne faut pas être pressé. Avec les vieux, il ne faut pas être pressé. Et quand il vous parle une fois, il n'a pas tout dit. Il a peut-être dit le dixième de ce qu'il veut. Et il vous remet à une autre date. De date en date, ça peut durer un an, deux ans, voire des années. Parfois, on a la réponse à différentes questions au bout d'un temps assez long. Alors donc, il faut s'armer de patience ici. Il faut y aller avec art, il faut y aller avec tact. Et surtout, il faut connaître le milieu. Absolument connaître le milieu.
Et puis, il faut y aller avec des instruments. Alors, quels étaient vos instruments? Uniquement vos oreilles? des papiers et des stylos ou bien des magnétophones? Est-ce qu'on a une trace de ces voix qui vous ont raconté ces légendes? Est-ce que vous, vous avez noté petit à petit ou bien est-ce que vous vous précipitiez pour rentrer chez vous et essayer de noter sans rien oublier tout ce que vous aviez entendu?
Il faut des instruments. Mais au début, il a fallu que je me contente d'écouter, de rentrer vite, de prendre des notes. Mais quelques temps après, dans les années 60, les magnétophones sont apparus. Avec les magnétophones, là, on a l'appareil qu'il faut, on a l'instrument qu'il faut pour écouter une voix, pour enregistrer et pouvoir l'écouter autant de fois qu'on le veut. Donc au tout début, j'ai dû donc écouter et venir transcrire dans ma chambre. Ça, c'était le tout début pour la tradition orale. Par exemple, pour Sungeta, je l'ai recueilli auprès des traditionnalistes en écoutant et en rentrant et mettre de l'ordre dans mes notes. Donc ça, c'était au tout début avec Sungeta. Et quelques années après, donc, il y avait les magnétophones, il y avait les nagras, puis les cassettes sont venues aussi. Et donc là, on pouvait à tout moment faire des enregistrements. Mais pour ces enregistrements, ce n'était pas facile. Il y a des vieillards qui n'acceptaient pas de se faire enregistrer. Il y a des vieux aussi qui n'acceptaient pas de se faire enregistrer.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait leur prendre quelque chose ou leur voler une partie de leur mémoire?
Oui, leur prendre quelque chose et puis ils ne comprenaient pas le pourquoi. Donc, mais c'est petit à petit que les traditionnistes et nous, ben, le contact étant permanent, on s'est compris. Et finalement, l'enjeu même valait la chandelle, il fallait donner son savoir pour la connaissance de l'Afrique, il fallait donner son savoir pour écrire l'histoire de l'Afrique, il fallait donner son savoir et montrer que nous avons un savoir. Voilà une question qui était importante et qui a prévalu au fil des ans.
Et tout ça, ça se passait où, Djibril Tamsernian? Vous avez fait ça, j'imagine, dans des villages. Vous avez été en brousse pour essayer de recueillir tous ces témoignages?
Oui, ces témoignages ont été recueillis en brousse, dans les villages. Ici en Guinée, en Haute-Guinée, dans le pays Malinké, c'est le pays par excellence de la tradition orale. Où il y a...
Est-ce que c'est le Fouta Djallon?
Non, c'était en Haute-Guinée. La Haute-Guinée, c'est le pays des Malinké. C'est là qu'il y a une tradition bien assise, une tradition bien élaborée, avec des griots qui sont des professionnels qui se transmettent le métier de père en fils. Et c'est l'occasion de dire que j'ai eu le bonheur de voir que l'enseignement est très bien charpenté avec les griots. Il y a des villages de griots où tout le monde est griot et le métier, c'est de conserver et de transmettre les choses du passé. Il y a une déontologie à respecter tout à fait. Et cela était d'autant plus important qu'on ne peut pas venir entrer dans un village et dire que vous voulez entendre de l'histoire. Il faut passer par le chef de village, il faut passer par le chef des griots. Donc il y a toute une hiérarchie là qu'il faut respecter. La connaissance du milieu était donc indispensable pour faire une collecte correcte, pour faire une collecte vraiment profitable.
Professeur Djibril Tamsendian, merci encore d'être dans la Danse des mots avec nous à Conakry. On vient de parler donc de toute cette collecte de traditions orales, mais vous êtes l'un des pères de l'histoire moderne donc de l'Afrique occidentale et de la Guinée en particulier. Il y a aussi tout un autre pan de votre travail qui s'est appuyé sur des documents écrits. Mais Ces documents écrits, en quelle langue étaient-ils en général? Ils n'étaient pas en langue africaine, j'imagine.
Non, les documents écrits, ce sont les documents d'abord des Arabes pour l'Afrique précoloniale, pour l'Afrique du temps du Moyen-Âge. C'était avec les Arabes que l'Afrique était le plus en contact. Donc il y a l'arabe, il y a le français, l'anglais, avec la traite négrière, bon, tous ceux qui pratiquaient cette traite, les français, les anglais, même les espagnols, les portugais, ont fréquenté ces côtes, ont écrit, ont raconté les histoires qu'ils ont pu recueillir. Donc c'est dans les langues européennes qu'on trouvait cette tradition orale.
Alors là aussi, il y a un paradoxe, parce que j'imagine que tous ces documents avaient été établis par des étrangers à la Guinée, et donc c'est le témoignage des intrus, pour ne pas dire des envahisseurs.
Oui, d'abord le témoignage des intrus. Les intrus, ce sont les premiers explorateurs qui vont fréquenter l'Afrique. Les intrus, ce sont les premiers missionnaires qui enseignent le pays. Et ils disent leur point de vue, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient avoir vu. Et naturellement avec beaucoup de préjugés. Donc la plupart de ces écrits-là ne rendaient pas compte exactement de ce qui existait, mais de ce qu'ils pensaient exister. Ce point est extrêmement important. Cela explique les désaccords qu'il y a entre les traditions écrites, du moins entre les écrits et les historiens africains.
Donc il fallait faire la part des choses à partir des documents que vous arriviez à approcher.
Oui, il fallait faire la part des choses et pratiquer le métier d'historien. Un document, il doit être analysé, il doit être critiqué. On doit établir son authenticité. On doit donc tirer du document écrit ce qu'on peut en tirer, mais toujours avec une réserve. Et d'une manière générale, les écrits des explorateurs, les écrits des voyageurs étaient remplis de préjugés qu'il fallait naturellement dégager, mais c'était quand même une documentation dont on pouvait se servir. Et pour revenir en arrière, je vous dirais aussi que pour la tradition orale, la tradition écrite, la tradition qui a été écrite, qui a été recueillie, c'était des traditions transmises de génération en génération avec fidélité. Et même l'historien Joseph Kizerbo a pu dire que la tradition orale, c'est comme des hiéroglyphes parlés.
Donc il faut faire du déchiffrage.
Ouais, il faut faire du déchiffrage, il faut savoir lire, il faut connaître le contexte. Et ces traditions-là qui ont été recueillies en Guinée, singulièrement au Sénégal, au Mali, au Niger, toutes ces traditions ont été réunies, rassemblées et placées à Niamey, dans ce qu'on appelle le centre de tradition orale qui a été créé par l'UNESCO. C'est là où les bandes recueillies ont été donc réunies et déposées. On avait maintenant une bibliothèque sonore. On avait là les voix des griots des années 60 qu'on peut écouter aujourd'hui encore. Donc la documentation sonore a rendu énormément de service à la tradition orale en Afrique du Sud. Là aussi, on a rassemblé tout ce qu'on a trouvé dans le monde bantou, tout ce qu'on a trouvé dans cette partie de l'Afrique, et la tradition orale, bien conservée à cette époque-là, fait qu'aujourd'hui, qu'on a des bibliothèques sonores. Et c'est là l'avantage pour la recherche.
Professeur Djibril Tabsirnian, vous êtes donc avec nous pour nous parler de cette première époque de l'histoire de l'Afrique. Donc à partir de 1959-60, il y a eu un premier livre d'histoire dont vous étiez responsable ou co-responsable qui a servi à quoi ? Qui s'est retrouvé sur les yeux de quel genre d'écoliers ou d'étudiants ?
Ce premier manuel d'histoire, nous l'avons écrit en 1959 et publié en 1960. C'était le premier manuel d'histoire qui présentait l'histoire de l'Afrique occidentale. Ça s'appelait l'histoire de l'Afrique occidentale. Alors, il faut dire qu'avant ce manuel-là, il y avait des manuels écrits par les Français qui présentaient l'histoire de l'Afrique. Mais c'était une vue très sommaire de l'Afrique. On insistait surtout sur la tête négrière. On insistait surtout sur la colonisation. On insistait donc sur cette Afrique précoloniale et le passé de l'Afrique qui avait que de simples évocations. Mais voilà, une fois que nous avons donné une histoire de l'Afrique occidentale présentant tous les pays avec leur royaume, leur empire depuis... Nous avons commencé depuis la préhistoire jusqu'au temps moderne, en passant par le Moyen-Âge et en présentant les royaumes et les empires, les dynasties qui se sont succédées. C'était véritablement une révélation et les élèves étaient très enthousiastes pour apprendre.
Parce qu'ils apprenaient leur histoire à eux et pas l'histoire qu'on leur soufflait, disons.
Voilà, exactement. Ils apprenaient leur histoire, ils étudiaient leur histoire, c'était donc d'autant plus intéressant. Alors ce manuel d'histoire a eu un grand succès en Guinée et l'année d'après, Présence africaine s'est emparée du manuscrit et l'a publié pour toute l'Afrique francophone.
C'est donc un manuel qui a presque fait tache d'huile.
Oui, ce manuel a été fait à Paris, il a circulé à Paris, à Niamey, à Bamako, un peu partout. C'était le livre d'histoire de l'époque. Jusque dans les années 65-66, puis après chaque pays a commencé à produire son livre d'histoire.
Mais ce livre d'histoire ne concernait donc pas que la Guinée. Vous sortiez de ce qu'on appelait l'AOF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française, et vous avez tenté, donc Djibril Tabsirnian, de faire l'histoire de tout l'empire de cette Afrique occidentale avant que la colonisation ne vienne le figer.
Oui, justement, le problème, c'était de parler de cette Afrique précoloniale sur laquelle passait très rapidement les écrits européens et qui n'entraient pas dans les détails, qui les citaient à peine. Donc il fallait voir la naissance de l'Empire du Mali, la naissance de l'Empire du Ghana, et les royaumes qui sont issus de ces empires éclatés. Donc depuis les temps les plus anciens jusqu'à nous, et c'était une histoire des Africains qui faisaient l'histoire avec les rois, avec la cour, avec... l'organisation classique de l'Afrique, c'était quelque chose de très intéressant. Et en même temps, on cherchait aussi l'illustration, à illustrer le passé de l'Afrique.
Alors, cette première étape d'une histoire africaine de l'Ouest, elle a maintenant 50 ans. Ça date de la moitié des années 60. Vous mentionniez la date de 1966 tout à l'heure. Est-ce que c'est une histoire qui a beaucoup changé depuis ? Est-ce qu'elle a été très enrichie ? Est-ce qu'elle a été rectifiée ? Est-ce l'histoire qu'on enseigne aujourd'hui, elle ressemble beaucoup à l'histoire qu'on a commencé à enseigner grâce à vous, Djibril Tabsirnian, au milieu des années 60, dans une Guinée toute nouvellement indépendante ?
Oui, il y a eu... ce que Alain Diop appelait le printemps historique en Afrique. L'indépendance a été le printemps historique en Afrique, ça a été la relance des recherches sur l'histoire africaine, la recherche de la littérature africaine, la connaissance du passé africain. Donc le livre a joué un rôle extrêmement important à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès. Beaucoup de recherches ont été faites. Il faut dire que tous les pays africains, je m'en tiens simplement aux pays de l'Afrique occidentale française, tous ces pays-là avaient un centre IFAN qui était l'institut fondamental. C'était l'Institut français d'Afrique noire que nous avons baptisé l'Institut fondamental d'Afrique noire. Et cela, nous devons au professeur Léo Professeur Assengor. Donc, chaque pays avait donc un centre de recherche depuis la colonisation. Ces centres ont été repris par l'indépendance et il y a eu à l'intérieur beaucoup de recherches. Des recherches à Guinée, nous avons fait de l'IFAN, on l'a transformé en Institut national de recherche et de documentation. C'est dans ce cadre-là que nous avons organisé des recherches de tradition orale. C'est dans ce cadre-là même que nous avons fait la fameuse recherche archéologique à Niani en 1965, ce qui a prouvé que la capitale de l'Empire du Mali se trouvait à Niani. Niani, c'est un petit village à la frontière avec le Mali. Et c'est là que se trouvait la grande capitale de l'Empire du Mali. Une recherche a été faite par une équipe guinéo-polonaise et on a pu identifier là une mosquée, la mosquée de l'empereur, le palais, et aussi on a pu exhiber beaucoup d'objets anciens, surtout de la poterie, mais d'une très belle facture, de très belle forme. Je pourrais vous parler de ça depuis très longtemps et c'est la première fois qu'on avait des objets du 13e-14e siècle exhumés par l'archéologie.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup professeur Djibril Tamsi Amian pour tous ces renseignements. Merci d'avoir été dans cette danse des mots qui bien sûr est une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.